Alors, évidemment, en parlant des figures historiques, le Bab et Baha'u'llah, ça soulève toute la question, toutes les questions qui entourent l'historicité et l'historique des grandes religions. Et il y a une problématique fondamentale dans cela, que je vais essayer d'esquisser dans quelques, comme perspective ce que je vais dire à propos des deux figures, le Bab et Baha'u'llah. Du passé, nous héritons des archives, nous héritons des livres saints, le Coran de Mahomet, la Bible, enfin l'Évangile, et la Bible hébreu, n'est-ce pas, des Juifs. Ces livres-là nous parlent de certains principes qu'à peu près tout homme sensé reconnaît. Par exemple, les 10 commandements de Moïse. J'ai jamais rencontré la première personne au monde qui dit qu'un des commandements de Moïse n'a pas de sens, n'est-ce pas, en fait. Même les voleurs savent que ça serait mieux si on ne volait pas. Même les assassins, même en faisant la meurtre, ils sont d'accord, Moïse, ça serait mieux qu'on ne tue pas, mais on fait, bon, on est faible et tout ça. Donc, il y a des principes comme ça, des principes moraux, qui sont à la base de toute la civilisation, n'est-ce pas? Parce que les principes, comme les 10 commandements et tout ça, c'est la base des systèmes juridiques dans beaucoup de pays, etc., etc. Donc, on ne peut pas donc nier le caractère fondamental des enseignements religieux pour toute l'histoire de la civilisation humaine. Deuxièmement, dans ces livres-là, il y a des histoires dont certaines sont extrêmement difficiles à accepter, n'est-ce pas? Enfin, des miracles, comme Moïse, par exemple, a séparé les eaux de la mer Rouge, etc., etc. Dans le cas de l'Évangile, disons, les miracles de Jésus, comme la multiplication des pains, et toutes ces choses-là, où ils marchaient sur l'eau. Et les musulmans ont aussi leur mythe dans ce sens-là. Par exemple, le mieux connu, c'est ce qu'on appelle le mirage de Mahomet. Le mirage de Mahomet, c'est, on suppose qu'un soir, Mahomet est monté au ciel et il est revenu le lendemain, en fait. Donc, il est allé au ciel, il est monté physiquement au ciel pour recevoir des instructions ou je ne sais pas quoi. Et il a visité Jérusalem, n'est-ce pas, en fait, dans une nuit, et il est retourné et tout ça. Il y a un certain dire de Mahomet à ce sujet, mais c'est un dire qu'on peut très facilement prendre de façon symbolique, comme une sorte de voyage intérieur, n'est-ce pas? Mais les musulmans insistent que c'est littéralement comme ça que ça s'est passé et tout. En ce qui concerne la foi chrétienne, les choses évidemment les plus difficiles à avaler, c'est évidemment la résurrection de Jésus. Et bon, il est mort, il est ressuscité après 3 jours, il est resté sur la terre pendant 40 jours, et il a monté physiquement au ciel devant une foule de personnes. Au moment qu'on racontait ces histoires-là, sans doute les chrétiens pensaient hausser l'estime, impressionner les gens de la vérité de la foi chrétienne. C'est-à-dire, on peut imaginer les premières chrétiennes qui disent, mais voilà, non seulement Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il a marché sur encore 40 jours, etc. Ils y mettaient, tout en pensant que plus qu'on met, plus que ça rehausse la chose. Ce qui, évidemment, déjoue toutes ces choses-là, c'est la science. Depuis 300 ou 400 ans, nous avons la science moderne. On sait, par exemple, que le ciel n'est pas un autre domaine où habite Dieu, mais que le ciel est simplement l'espace entre la planète Terre et les autres planètes et tout ça. À ce moment-là, les choses comme l'ascension physique de Jésus deviennent très difficiles à croire. Et donc, toutes ces histoires embellies qu'on nous raconte, au lieu de supporter la foi, maintenant, ils briment la foi de tout le monde parce que les gens disent, mais on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, c'est contraire à la science. On sait que certaines choses qui sont racontées ne pouvaient pas arriver. Par exemple, que Jésus monte au ciel parce qu'il n'est pas de ciel. Il n'est pas de ciel dans le sens que quand il parlait de monter au ciel, c'était dans le cadre d'une façon de voir le monde qui dérivait d'Aristote à ce moment-là, que le ciel était comme un globe, n'est-ce pas, en fait, et les Hébreux pensaient ça aussi, que c'était comme un globe, n'est-ce pas, comme si on habitait dans une sorte de demi-sphère, n'est-ce pas, dont le haut c'était le ciel et tout ça. Et mais on sait maintenant que ce n'est pas vrai du tout, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de ciel où aller, n'est-ce pas? En fait, donc, les miracles de guérison et tout ça, peut-être on peut y croire. On sait que on assiste au phénomène des gens qui ont certains pouvoirs de guérison. On sait qu'il y a dans la guérison, dans la médecine, des choses qui ne sont pas encore découvertes, qui ne sont pas encore mises à jour et tout ça. Mais les autres choses, comme j'ai dit, comme le mirage de Mahomet ou comme la résurrection de Jésus et tout ça, sont beaucoup plus difficiles à accepter. Et donc ces choses-là qui étaient, pour ainsi dire, les joyaux de la croyance chrétienne, par exemple, c'est-à-dire quand les chrétiens parlaient de Jésus, mais notre gars, c'est le seul qui s'est ressuscité physiquement de la mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour eux, pour pendant des siècles, des siècles et des siècles, pour les chrétiens, ça c'était le joyau, l'emblème même de la foi, la résurrection de Jésus. Et maintenant, ça devient presque la honte, si vous voulez, dans le sens que la science montre que ce n'est pas vrai. Alors, ça amène évidemment les questionnements suivants. Si ça, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, n'est-ce pas? Si on sait certainement que certaines choses ne sont pas vraies parce qu'ils ne peuvent pas être vraies, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que c'est tout un mythe? Est-ce qu'il a même existé un Jésus? Etc. Alors, quand on lit l'Évangile, par exemple, on voit la sagesse qui est dans les paroles de Jésus. On peut dire quand même, quelqu'un a prononcé ces paroles. Quelqu'un a donné ses enseignements d'amour et tout ça. Ça vient de quelque part et certainement, ça élève l'humanité. Mais, encore une fois, on a beaucoup de peine à séparer le vrai du faux là-dedans. Tout ça pour dire que toutes ces autres religions, la foi chrétienne, judaïque, islamique, bouddhiste, toutes ces fois sont nées dans la période avant la science moderne. Et donc, les vérités de ces religions étaient articulées donc, dans un langage et d'un point de vue qui était, pour ainsi dire, primitif ou, disons, pré-scientifique. Alors, la foi bahaï est la seule grande religion maintenant qui est venue au monde, enfin, dont les fondateurs sont venus après la révolution scientifique. Donc, nous avons pour la première fois l'articulation d'une expérience religieuse, d'un vécu religieux, de prophète, dans un langage moderne, scientifique et tout ça. Alors, donc, ça c'est l'importance de ces événements historiques, la venue du Bahá'í Baha'u'lláh, parce que ça fait que la foi bahaï n'est pas simplement un ensemble de mots, ce n'est pas simplement une philosophie, mais c'est vraiment enraciné dans le vécu humain. Alors, je vous raconte donc en esquisse quelques éléments de cette histoire. Le Bab qui bon, il a pris le nom le Bab, ce qui veut dire la porte. Son nom d'origine, c'était Ali Mohammed Shirazi. Ali Mohammed de Shiraz. Et il était descendant du prophète Mahomet. Il est né en 1819, donc c'est pas au 19e siècle. Et il a été martyrisé, il a été fusillé en 1850 à l'âge de 31 ans. En 1844, le Bab s'est proclamé être un prophète de Dieu auprès d'un certain nombre assez restreint de personnes, okay, qui étaient les premiers croyants dans la foi babi. Et le Bab a dit à ses adeptes, ne dites pas aux gens qui je suis, mais pour montrer que je suis vraiment arrivé, qu'un nouveau prophète est arrivé, montrez-leur mes écrits. Et à ce moment-là, le Bab, la première chose qu'il a faite, déjà en 1844, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Qayyum al-Asma, ce qui est le commentaire sur le livre de Joseph dans la Bible. Alors, selon les musulmans, et selon les Baha'is maintenant, l'histoire de Joseph dans la Bible est très symbolique de ce qui arrive au prophète. Vous vous souvenez vaguement, enfin peut-être, ou peut-être précisément, de l'histoire de Joseph, qu'il était le cadet des frères et tout ça, qu'il était jeté dans un puits et tout ça, qu'il était malmené par sa propre famille. Mais il a échappé, il est allé en Égypte, il était un homme très sage, il est devenu le confident, le premier homme du roi et tout ça. Et finalement, quand il avait une famine ailleurs, ses parents sont venus enfin, en Égypte pour chercher de l'aide. Et là, en fait, ils ont finalement reconnu enfin, que c'était lui, Joseph, celui qu'eux, ils avaient laissé pour mort et tout ça. Alors donc, sans entrer dans les détails, pour les musulmans et pour les Baha'is aussi, toute cette histoire, c'est vrai, c'est de vraies histoires, mais c'est aussi symbolique de tout ce qui arrive à tous les prophètes, qui sont persécutés, ils ne sont pas reconnus, mais ils finissent par montrer leur puissance et tout ça, etc. Et ils finissent par sauver les gens qui les ont persécutés. Donc, il a un surah, un chapitre dans le Coran qui s'appelle le surah de Joseph, qui est plein d'allusions mystiques et tout ça. Et donc, le Bab a écrit un commentaire sur ce livre de Joseph. Et pour les musulmans, la plus grande preuve de la prophétie de Mohammed, c'était le Coran. Ils ont dit, et Mohammed lui-même avait dit, parce qu'il y avait d'autres qui faisaient des revendications d'être prophète, Mohammed avait dit, mais écrivez des versets alors. Et les musulmans, je dis, le plus grand miracle, ce qui prouve la prophétie de Mohammed, c'est le Coran. Parce que c'est évident que ce livre vient de Dieu, qu'aucun homme mortel n'aurait pas pu écrire ce livre. Et effectivement, c'est-à-dire... les versets du Coran sont tellement raffinés, enfin, c'est un langage, enfin, que personne ne peut reproduire, n'est-ce pas, enfin, qui ne s'imite pas, n'est-ce pas, qui ne s'imite pas. Et donc, ça, c'était la pierre de touche pour les musulmans pendant tous les siècles. Montrez-moi des versets, si vous voulez. Si vous dites que votre religion est vraie et tout ça, mais montrez-moi des versets, que votre prophète peut écrire des versets comme dans le Coran. Alors justement, dans le Qayyum al-Asma, le Bab a écrit un livre où les versets étaient légaux et même encore plus élégants, plus spirituels que le Coran. Et ça a été reconnu, et c'était pourquoi le Bab avait dit « Ne dites pas qui je suis physiquement », parce qu'il voulait que les gens portent leur attention sur ses écrits, parce que c'est ça, c'était la plus grande preuve, parce qu'en regardant, ça c'est un homme, je l'ai connu quand il était garçon, il est un homme comme tout le monde, etc., n'est-ce pas? Mais en voyant le livre, il ne pourrait pas dire ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ses adeptes ont tous été martyrisés de différentes façons. Et ils ont convoqué déjà en 1845, en janvier, à Bagdad, ils ont convoqué une réunion des prêtres musulmans sunnites et chiites. Et ils ont condamné l'auteur inconnu de ce livre comme un imposteur parce qu'il prétend être un nouveau Mahomet. Et il a écrit un livre qu'il prétend être l'égal du Coran, etc., etc. Donc ils ont reconnu clairement l'implication, la revendication qui était contenue dans le Kerem al-Asma. Alors les choses se sont développées rapidement et le Bab avait dit ouvertement, et bien sûr, comme tout ce que je dis, ce n'est plus maintenant lu à travers 2000 ans de mythes, n'est-ce pas? Il a des milliers d'observateurs, de récits, de contes qui vérifient chaque chose que je dis, ok? Parce que c'est des événements récents, historiquement récents. Alors, les choses se sont développées rapidement, et le Bab a tout de suite laissé entendre que sa mission était de bouleverser l'établissement islamique qui était devenu sclérosé à l'impossible. Enfin, ici en Occident, c'est même difficile. Vous parlez de l'Église catholique et tout ça, que c'est rigide, mais jamais vous avez vu une chose. Par exemple, je mentionne juste une chose pour vous montrer jusqu'où ça va, mais les moulas écrivaient des livres comme ça épais sur la question comment purifier un animal qui a été sodomisé par un être humain pour qu'il puisse être mangé. Non, mais c'était rendu à ce point-là, à cette bassesse, c'est-à-dire tout l'esprit était parti, c'était devenu vraiment une chose absolument, qu'est-ce qu'il faut dire?
Grotesque,
oui, et basse, n'est-ce pas? Le Bab est venu pour briser ça, et il a choisi comme point de mire la question de la situation de la femme. Et une de ses adeptes, enfin la seule adepte qui était femme, c'était un certain Tahiré, qui a ôté sa voile et qui a dit que c'est un nouveau jour et on ne peut plus arrêter le mouvement de l'égalité de l'homme et de la femme et tout ça. Elle a proclamé qu'elle n'allait pas reculer et tout ça. Et les babis même, les adeptes du Bab, étaient scandalisés par cela. Il y a même certaines qui ont quitté la foi, qui disent « mais ça c'est trop ». Il y en a qui se sont plaints au Bab. Et le Bab a dit, qu'est-ce que je peux dire de celui que Dieu lui-même a nommé Koratolain? C'était un surnom de Tahiré, ce qui veut dire la consolation des yeux. Donc le Bab appuyait Tahiré dans sa façon d'agir, sans équivoque. Et tout ça a conduit, ça c'était en 1848, et déjà seulement 2 ans plus tard, le Bab a été martyrisé, plus de 20 000 Babis étaient mis à mort. Tahiré était... Tous les premiers adeptes étaient tués. Les musulmans, l'établissement, avaient bien compris que le Bab visait à révolutionner les conditions dans l'islam. Et puis, ils n'ont pas hésité à faire tout dans le possible pour réprimer le babisme. Mais le Bab avait dit que il préparait le chemin pour un plus grand qui venait après lui. Et en 1863, Baha'u'llah, ce qui veut dire la gloire de Dieu, ça c'est aussi un titre, comme le Bab est un titre, et le nom d'origine de Baha'u'llah, c'était Mirza Hussein Ali, de le terrain enfin de Nur, la province de Nur, donc Mirza Hussein Nuri Bahá'u'lláh. Son père était un homme politique, il avait une position très élevée, très haut placée, et il aurait été de règle que Bahá'u'lláh suive dans les traces de son père, c'était l'aristocratie évidemment, mais Bahá'u'lláh a refusé de faire ça, à l'étonnement de tout le monde. Non seulement cela, mais quand Bahá'u'lláh était garçon, les enfants des riches, évidemment, des aristocrates, recevaient une instruction privée, ils avaient des tuteurs, n'est-ce pas? Mais le tuteur de Bahá'u'lláh a dit, je ne peux rien enseigner à cet enfant, il sait tout. Alors c'est même inutile. Alors même Bahá'u'lláh n'avait pas d'instruction, il n'était pas allé à l'école, même il n'avait pas appris l'arabe, qui était la base de toute l'éducation, parce que c'était la langue dans laquelle le Coran était écrit. Le persan était une langue différente de l'arabe, ce n'est pas la même langue. Vous allez voir dans quelques minutes pourquoi je mentionne ce fait. Alors, Bahá'u'lláh est devenu un adepte du Bab. Bahá'u'lláh est né en 1817, je n'ai pas dit. Il est devenu adepte du Bab. Il était un des adeptes du Bab. Et il était épargné, le martyr que les autres Babis avaient subi, seulement à cause du rang de son père. Et aussi pour une autre raison, que Bahá'u'lláh était connu comme le père des pauvres. C'est-à-dire, quand il avait renoncé à la vocation politique et tout ça, il s'occupait des pauvres et tout ça, à Téhéran surtout. Et donc, il était très aimé de la population. Et donc, les autorités avaient peur de tuer Bahá'u'lláh, à cause du rang de son père, et aussi parce qu'il craignait un soulèvement de la population. Donc, au lieu de le tuer, ils l'ont exilé à Bagdad, et ensuite à Constantinople, ensuite à Adrianople, et finalement à Saint-Jean d'Arc, en Palestine, qui était sous l'Empire ottoman à ce moment-là. Alors, Bahá'u'lláh a fait sa déclaration publique en 1863, mais il a commencé à écrire en 1852, à peu près. Et il a écrit des centaines de volumes. D'ailleurs, il y a au moins 40 000 pages manuscrites des écrits de Bahá'u'lláh qui n'ont jamais encore été édité dans aucune langue, même la langue originale. Actuellement, il y a à peu près 2000 pages des écrits de Bahá'u'lláh édités en anglais, qui est la langue occidentale où il y a le plus des écrits bahá'í. Mais en fait, il y a beaucoup en français et tout ça aussi. Mais je prends l'anglais parce qu'il avait beaucoup de livres qui étaient traduits directement en anglais de nous passant. Alors, juste pour donner une idée, donc, du volume des écrits de Bahá'u'lláh, comme j'ai dit, il y a à peu près 2000 pages éditées en anglais, et il y a 40 000 pages manuscrites qui n'ont pas encore édité, même dans la langue persane. Et régulièrement, la Maison de Justice, la foi bahá'í, publie des compilations qui donnent accès graduellement, en fait, peut-être toutes les années, tous les deux ans, ils sortent des compilations des nouveaux écrits de Bahá'u'lláh qui sont tirés de ces manuscrits. Donc, graduellement, ils sont en train de publier ces choses-là, mais ça va prendre enfin, beaucoup de temps, des générations même. Et donc, Bahá'u'lláh a passé le restant de sa vie en prison. C'est-à-dire, à partir de son exil à Bagdad en 1853, jusqu'à sa mort en 1892 en Terre Sainte, à Saint-Jean d'Arc, donc 40 ans, il a passé tout le reste de sa vie en prison, dans des conditions variées. Vers la fin, la prison, c'était plutôt à la maison, c'est-à-dire les conditions de l'emprisonnement n'étaient pas toujours aussi difficiles qu'au départ. Parce qu'au départ, ils espéraient que Barla allait mourir. C'est-à-dire, il a passé 4 mois dans un souterrain à Téhéran qui s'appelle le Siachal. Et il a été alourdi de chaînes qui ont laissé des marques sur sa peau pour le reste de sa vie et tout ça. Alors c'est évident qu'il pensait qu'il allait mourir, que personne ne pourrait sortir de ça. Mais il a survécu à cela, et puis donc finalement ils l'ont exilé, ils ont dit bon, bah, allez-y, enfin bon. Donc, de ce fait qu'il a été confiné pour le reste de sa vie, Baha'u'llah donc a écrit, et les principes qu'il enseignait, c'était l'unité. C'est tout, ça tourne autour de l'unité. L'unité de la religion, l'unité, l'unicité de Dieu, l'unité de la race humaine, l'égalité de l'homme et de la femme, l'abolition de l'esclavage, l'unité des races, donc ce qui est la même chose que l'unité de la race humaine, n'est-ce pas? Des principes de ce genre-là, qui tournent tous, comme les enseignements de Jésus tournent tous autour de l'amour, n'est-ce pas? Les enseignements de Baha'u'llah tournent tous autour de l'unité. On peut dire que l'unité est à la collectivité ce qu'est l'amour pour l'individu, n'est-ce pas? L'amour, c'est le ciment des individus. L'unité, c'est ce qui cimente les groupes ensemble, n'est-ce pas? Et donc, Baha'u'llah a donné des enseignements pour établir l'unité. Bien sûr, il n'y a pas de contradiction. L'amour et l'unité vont ensemble, ça c'est évident. L'amour, c'est la base de l'unité. Mais Baha'u'llah a dit que l'unité sociale implique non seulement l'amour, mais aussi des changements structurels. Par exemple, il a parlé de réorganiser des entreprises comme un partenaire entre les ouvriers et les capitalistes pour qu'ils aient le même intérêt, c'est-à-dire que les ouvriers, en plus de toucher le salaire, recevraient un pourcentage des profits. Et à ce moment-là, ça mettrait fin, dit-il, à cette opposition entre les ouvriers et les patrons qui cherchent à avoir le plus grand rendement pour le moins de salaire possible, et les ouvriers qui veulent le plus grand salaire pour le moins de rendement possible, n'est-ce pas? En fait, il a ce conflit d'intérêts qui est enchâssé dans le système. Baha'u'llah dit, ben, c'est parce que le salaire n'est pas une récompense suffisante, il faut que que l'ouvrier reçoit un pourcentage des profits comme le patron ou le capitaliste aussi. Donc, c'est la coopération à tous les niveaux, au niveau économique, social, etc. Alors, je laisse à la discussion d'approfondir tous ces principes, mais ça c'est la direction de ces choses-là. Et par rapport à l'histoire des religions, Baha'u'llah a enseigné une conception que nous appelons la révélation progressive. C'est-à-dire que dans le passé, la venue de ces figures comme les grands prophètes, comme les Bouddhas, les Mahomet, Moïse et Jésus, étaient des événements sporadiques qui touchaient habituellement une partie de l'humanité. Et c'était assez naturel que les gens qui sont devenus des adeptes de cette religion-là pensent que ben, c'est la seule vraie religion, n'est-ce pas, parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres. Donc, toutes les grandes fois du passé ont finalement, enfin les communautés religieuses, si vous voulez, ont fini par faire cette revendication d'exclusivité que leur religion était la seule vraie, que nous connaissons, que les catholiques ont dit ça, les protestants ont dit la même chose, les musulmans disent la même chose, les bouddhistes disent la même chose, les juifs disent la même chose, etc. Donc nous avons maintenant, nous assistons à cette concurrence entre les religions où chaque groupe religieux prétend avoir seul la vérité, n'est-ce pas? Ce qui évidemment est impossible, c'est-à-dire, si vous avez 300 religions et chacune prétend avoir seule raison, il y a au plus une qui peut dire la vérité, n'est-ce pas? Il se peut qu'ils ont tous tort. Mais si Si deux personnes disent avoir chacun seul raison, il y a au plus un des deux qui peut avoir raison, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas possible que les deux aient raison tout en croyant des choses différentes, n'est-ce pas? Alors, c'est la logique, c'est une petite logique. Donc, on sait, par la simple logique, que ces revendications des communautés religieuses d'avoir le monopole sur la vérité, nous savons que toutes ces revendications ne peuvent pas être vraies. Logiquement, ça ne peut pas être vrai. Il se peut qu'aucune n'est vraie, mais il n'est pas possible qu'elles soient toutes vraies. Ça, c'est sûr et certain. Alors, et évidemment, c'est assez drôle de voir que, malgré ce fait évident, les adeptes d'une religion quelconque ne pensent jamais que c'est eux qui peuvent... ils ne semblent pas avoir besoin de questionner la chose. Alors, Baha'u'llah, donc, a dit, en fait, tout ces prophètes, toutes ces figures viennent de Dieu. Et ça, c'est la notion de révélation progressive. Il a dit que l'illusion qu'ont les chrétiens, que c'est seul Jésus qui est le vrai envoyé de Dieu, que les juifs ont l'idée que seul Moïse et Abraham, les musulmans qui pensent que Mohammed est le dernier des prophètes, etc., que toutes ces croyances sont basées sur l'ignorance, sur le fait que, au moment de la venue de ces figures, tout le monde n'était pas découvert, enfin, on parle même encore du continent américain, comme le Nouveau Monde, n'est-ce pas? On est déjà allé à la Lune, mais en fait, il y a 500 ans, on n'était même pas venu encore de l'Europe ici, n'est-ce pas? Alors donc... Baha'u'llah donc explique que toute cette illusion qu'ont les groupes religieux d'avoir seule vérité, d'être les seuls détenteurs de vérité, provient de l'ignorance. Et effectivement, si on regarde les dires de Jésus ou les dires de Mohammed, vous ne verrez jamais de prétention de Jésus ou de Mohammed que d'être les seuls prophètes. Jésus, par exemple, a reconnu Moïse, il a dit... Si vous avez connu Moïse, vous me connaîtrez parce que Moïse a écrit de moi. Il a parlé qu'il viendra d'autres après lui, le consolateur qui viendrait après lui, n'est-ce pas? Qui expliquerait les choses que lui n'avait pas expliquées. Il a dans la Bible l'incident suivant, qu'un des apôtres qui vient vers Jésus dit, mais on a rencontré sur notre chemin un type qui chassait les démons et tout ça, qui guérissait les gens, mais qui n'est pas un de nous. Alors Jésus dit, ben, s'il guérit les gens, tant mieux, n'est-ce pas? Il dit, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. C'est dans la Bible, c'est dans l'évangile de Marc, 9:50. Jamais vous verrez ce fanatisme venant de la bouche de Jésus, de Moïse et tout ça, ou de Mohammed. Dans chaque verset du Coran, on commence en disant au nom de Dieu, Allah, le miséricordieux, le compatissant. Ça, c'est le début de chaque verset du Coran. Donc, c'est l'image de Mohammed de Dieu, le miséricordieux, le compatissant. Et il y a un verset du Coran où il est dit que Dieu peut pardonner le pire des péchés que les hommes sont capables de faire. Et Mohammed avait même dit, il y a une tradition que Mohammed avait dit que ça c'était son verset préféré du Coran. Et Mohammed avait dit que lui-même, il préférait ce verset au-de tous les autres. Et ça c'est évidemment... une des preuves de la grandeur de Dieu, qu'il est Dieu, on peut s'étonner de toute la méchanceté que les hommes peuvent faire, ça c'est évident, mais si les hommes étaient capables d'être aussi méchants que même Dieu ne pouvait pas les récupérer, mais pensez deux fois à ça, ça veut dire que Dieu a créé des êtres qu'il n'est pas capable de contrôler, qu'il ne peut pas récupérer, n'est-ce pas? Donc, Mohammed avait dit, comme tous les prophètes ont dit, que Dieu peut pardonner n'importe quel péché. Mais évidemment, il faut que la personne se repentisse et reconnaît qu'il a fait tort et tout ça. C'est pas que Dieu va se mouvoir, vas-y, ça n'a pas d'importance. Mais si on demande sincèrement pardon à Dieu, il nous pardonne. Donc, Baha'u'llah explique que c'est seulement par l'ignorance que les gens sont venus à croire que leur religion ou que leur prophète était le seul vrai. Et jamais on voit, venant de la bouche de ces gens-là, ces revendications. Ces revendications ont été faites en leur nom. Dans le cas de Jésus, par exemple, c'était des siècles après. C'était 3 siècles après Jésus, quand on a formulé les doctrines comme la Trinité et tout ça. C'était à la Concile de Nicée en 325. Donc, cette conception historique qu'enseigne Baha'u'llah nous permet d'avoir une vision de la religion qui nous permet une réconciliation des religions sans amoindrir de quelque façon que ce soit ce qui est essentiel à la religion, c'est-à-dire l'enseignement spirituel et moral, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ces histoires bibliques et tout ça? Baha'u'llah a affirmé que certaines de ces histoires étaient vraies. Et il a fait référence au miracle que Jésus avait fait. Il a dit définitivement que certaines étaient fausses. Mais en général, Baha'u'llah répondait à la question suivante. Ça n'a pas d'importance. Que Jésus soit levé physiquement ou non, qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est l'esprit. Il dit la plus grande preuve de la véracité d'un prophète, c'est qu'il peut changer le cœur de l'homme. Ça, c'est le véritable miracle. Et Baha'u'llah a dit la chose suivante, il a dit, un miracle est une preuve seulement pour les gens qui le voient. Les gens à qui on raconte ce qu'on a vu, c'est déjà pas une preuve, parce qu'ils vont dire, ben, le type, il rêve, il tombe, est-ce qu'il a vraiment bien vu, n'est-ce pas? Il dit, et même ces gens-là sont enclins à les douter après, n'est-ce pas? Donc il dit, les miracles, il y a certains de ces miracles qui sont vrais, qui s'en sont vraiment passés, mais les miracles, ce qui est faux, dit Baha'u'llah, c'est de faire de ces miracles une preuve, une raison pour croire. Il dit, la raison rationnelle pour croire, c'est ce que Jésus a dit, par les fruits, vous ne connaîtrez l'arbre. L'arbre est connu par ses fruits. Et regardez ce que les fruits de Jésus, par exemple, pendant 2000 ans, les œuvres charitables, enfin, la vie des millions et des millions de personnes dans tous les coins du monde a été améliorée par les enseignements de Jésus. Par les gens qui, par croyance en Jésus, ont refusé de voler, etc., qui ont modifié leur comportement, et la même chose pour les autres prophètes. Alors le fruit de ces prophètes est évident, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, c'est la base même de la civilisation. Donc, ça c'est une esquisse de l'histoire, enfin, juste pour raccorder au temps moderne, Baha'u'llah est mort en 1892. Son fils aîné, Abdul Baha, dont la photo est là-bas, a pris la relève jusqu'à sa mort en 1921. Abdul Baha est venu en Occident, il est venu à Montréal en 1911, et ainsi la foi a débuté en Occident. Et graduellement, l'ordre administratif que Baha'u'llah a préconisé a été déployé. Et c'est la base administrative de la communauté mondiale Baha'i qui comporte peut-être 6 millions de personnes actuellement. Et qui est répandue dans tous les pays du monde. Alors, voilà donc, en esquisse, une esquisse d'une esquisse d'une esquisse, enfin, d'un petit historique de la foi Baha'i. Mais surtout, ça nous inspire confiance parce que les faits sont absolument vérifiés et vérifiables. C'est-à-dire, enfin, on a une histoire de religion qu'on n'a pas besoin de lire au travers la lentille d'un âge précédent où la superstition et la croyance superstitieuse étaient tellement dominantes, n'est-ce pas? Et nous pouvons donc, nous assistons à un phénomène religieux qui se déroule devant nos yeux et dont la validité, on ne peut pas contester. On peut y croire ou ne pas croire, mais la validité de la chose, la validité historique
de l'événement,
on ne peut pas le contester. C'est incontestable. Il y a des milliers de pages écrites par des témoins oculaires de l'Occident, de l'Orient, et tout ça. Et ce qui est réconfortant, c'est que dans ces grandes lignes, cette histoire est très semblable à ce qu'on retrouve dans les récits bibliques et dans l'histoire de Mahomet et tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est plutôt consolant, c'est-à-dire, ça nous porte à croire plus dans ces anciennes religions. Alors ça, c'est une chose aussi que les gens, c'est difficile à comprendre au début, pourquoi le fait d'être Baha'i fait que nous croyons encore plus fort dans la validité des religions comme la foi chrétienne, et même dans notre dialogue avec les chrétiens, parfois, souvent les Baha'is sont dans la position d'affirmer des croyances que eux-mêmes, ils doutent, n'est-ce pas, en fait. Donc, de cette façon-là, la foi Baha'i, le phénomène de la foi Baha'i, rehausse, si vous voulez, l'estime et la confiance qu'on peut avoir dans la validité de ces religions du passé. Alors voilà.